En quelques jours, le Soudan du Sud, plus jeune état de la planète, a basculé dans la violence, faisant craindre une guerre civile. Les combats opposent les partisans de l'ancien vice-président Riek Machar aux troupes fidèles au président Salva Kiir. Pour éviter que ces affrontements ne dégénèrent davantage et que les minces progrès enregistrés depuis l'indépendance en 2011 ne soient effacés, la communauté internationale et principalement les pays riverains africains s'impliquent pour amener les deux camps à poser les armes et à dialoguer. Cet engagement des États africains est une bonne chose pour Roland Marshall, spécialiste des conflits africains au CERI.
Il joue l'Éthiopie au niveau sécuritaire, le Kenya au niveau économique, mais derrière eux, évidemment, une communauté occidentale extrêmement soudée, unanime dans la recherche d'un cessez-le-feu et d'une pacification. Tout ça joue quand même en faveur de la paix. Alors peut-être ça ne sera pas suffisant, mais malgré tout, on est dans un contexte un peu différent où il y a d'autres mesures possibles et disons, si vous voulez, l'idée d'aller à la guerre pour la guerre n'a plus grand sens aujourd'hui que le Sud-Soudan est indépendant.
Malgré les efforts des États africains et du reste de la communauté africaine, la Somalie ne parvient pas à retrouver la paix et la voie de la renaissance. L'année s'est ouverte par un double attentat à Mogadiscio, non loin du complexe des Nations Unies. Les Chebabs, ces islamistes locaux, l'ont revendiqué, assurant qu'il ne s'agissait que du début de leur nouvelle campagne de terreur. Malgré cet épisode sanglant, Mgr Bertine, administrateur apostolique de Mogadiscio, veut croire que le pays peut se sortir de ce cycle de violence, à condition que tous, y compris la communauté internationale, s'implique.
Il est nécessaire que et la communauté internationale et surtout les Somalis eux-mêmes réalisent que la difficulté est là de faire renaître l'État. Mais de l'autre côté, on peut surmonter ces difficultés si on a un esprit un peu plus grand qui évite tout le factionnalisme lié un peu aux intérêts personnels.
L'année 2013 devait se finir en apothéose pour Vladimir Poutine. Le président russe voulait commencer 2014 sur de bonnes bases avant les Jeux Olympiques de Sotchi. Mais les islamistes du Caucase ont chamboulé ses plans en commettant dimanche dernier et lundi dernier deux attentats suicides visant des cibles civiles. Le chef de la rébellion islamiste du Caucase, Doku Umarov, avait appelé en juillet à empêcher par tous les moyens la tenue des JO. Mais paradoxalement, ces attentats montrent les limites de ces groupes terroristes, selon Pierre Lorrain, journaliste et écrivain spécialiste de la Russie.
Le fait de se faire exploser dans un endroit public ne signifie pas forcément que l'organisation que l'on représente est puissante. Il s'agit au contraire d'un acte pratiquement de désespoir dans la mesure où le plus logique lorsqu'on organise des actions, c'est d'agir contre des cibles du pouvoir ou des cibles militaires. Le fait de s'en prendre à la population civile, cela signifie que l'on n'a pas les moyens d'atteindre des objectifs plus importants.
Depuis le 1er janvier, c'est la Grèce qui assure la présidence tournante de l'Union européenne. Un défi pour ce pays en récession depuis des années. C'est aussi une occasion pour le Premier ministre Antonis Samaras de consolider son pouvoir et de renforcer sa position vis-à-vis de ses partenaires européens, alors que la Grèce est encore bien fragile. C'est ce que nous expliquait Jean Katsiapis, maître de conférence à l'Université Paris-10-Nanterre, spécialiste de la Grèce.
Le parti de l'opposition, la gauche radicale d'Alexis Tsipras, dans les sondages est au coude à coude avec le parti au pouvoir, la Nouvelle Démocratie, le parti de droite, et puis une extrême droite néo-nazie qui est toujours le troisième parti de Grèce, et une gauche extrême, qui est peut-être aujourd'hui le premier parti de Grèce. C'est pourquoi la meilleure carte d'ailleurs de Samaras consiste à dire à ses interlocuteurs, par exemple Mme Merkel, si vous ne m'aidez pas, bien le prochain Premier ministre sera Tsipras et la gauche radicale qui n'est pas anti-européenne, mais qui dit bien il faudrait effacer la dette, une grande partie de la dette souveraine de la Grèce.
L'Europe ne doit pas être réduite à ses problèmes économiques. C'est ce qu'a compris la communauté de Thésée qui organise chaque année, fin décembre, une rencontre de jeunes Européens. Cette semaine, elle s'est tenue à Strasbourg, ville symbole de la construction européenne. Frère Aloïs, le prieur de la communauté de Thésée, reconnaît que l'Europe a besoin de ce type de rencontre.
Elle a besoin de continuer sur ce chemin de réconciliation, mais l'Europe ne peut pas se construire sans des rencontres personnelles. Les institutions ont besoin d'être soutenues par ces rencontres personnelles. Et je crois que c'est une contribution que nous n'avons pas seulement donné maintenant avec cette rencontre, mais les chrétiens en général sont appelés à donner cette contribution pour l'Europe de la rencontre personnelle.
Finissons cette rétrospective par une bonne nouvelle, la libération du père George Van Den Bush. Il a été relâché par Boko Haram qui l'a retenu en otage pendant 7 semaines dans le nord du Nigeria. Cela a soulagé les fidèles de son diocèse à Nanterre ainsi que ses confrères de Fideonum, dont le père Jean Forja, responsable de l'accompagnement des prêtres Fideonum, est directeur adjoint du service national pour la mission universelle de l'Église.
C'est clair que c'est un immense cadeau de bonne année, un immense cadeau qui nous est donné en cette fin d'année 2013, qui a été marqué et qui reste marqué par des événements douloureux, des épreuves que connaissent beaucoup de nos contemporains, en particulier sur le continent africain, mais pas seulement. Eh bien, j'ai envie de dire, au milieu de toutes ces épreuves, il y a quand même cette lueur, cette lumière. Voilà, c'est la lumière de Noël qui se prolonge à travers cette nouvelle. C'est quand même formidable.